Lecture par Christine Fusarelli d'un extrait du livre de Sylvain Tesson qui s'appelle La Panthère des Neiges. Extrait numéro 17. Aux premières lueurs, nous rampâmes hors de nos sacs. Il avait neigé et la bête était près de son yak, babine rougie de sang, pelage saupoudré de blanc. Elle était revenue avant l'aube et dormait, le ventre lourd. Sa fourrure était une nacre aux reflets bleus. Pour cela, on l'appelait panthère des neiges. Elle arrivait comme la neige, silencieuse, et se retirait à pas de feutre fondu dans la roche. Elle avait déchiré l'épaule, part du roi. Une tache vermillon se découpait dans la robe noire du yak. La panthère nous avait repérés. Se tournant sur le flanc, elle leva la tête et nous croisâmes son regard, braise froide. Les yeux disaient « Nous ne pouvons nous aimer. Vous n'êtes rien pour moi. Votre race est récente, la mienne immémoriale. La vôtre se répand, déséquilibrant le poème. » Cette face barbouillée de rouge, c'était l'âme du monde primitif, alternant les ténèbres et l'aurore. La panthère ne semblait pas inquiète, peut-être avait-elle mangé trop vite. Elle s'endormait de courts instants, sa tête reposait sur ses pattes avant, elle se réveillait, humait l'air. Cette phrase que j'avais tant aimée du récit secret de Pierre Drieu-La Rochelle me martelait l'esprit. Et si la proximité de la bête ne nous avait pas commandé le silence, je l'aurais récité à Meunier, à la radio, pour lui dire tout le mal que j'en pensais à présent. Je savais qu'il y avait en moi quelque chose qui n'était pas moi et qui était beaucoup plus précieux que moi. Je la détournais mentalement pour formuler ceci. Il y a hors de moi quelque chose qui n'est pas moi et qui n'est pas l'homme, et qui est plus précieux, et qui est un trésor hors l'humain. Jusqu'à 10 heures du matin. Deux gypaètes venaient aux nouvelles. Un grand corbeau traça une ligne dans le ciel, encéphalogramme plat. Elle se leva, fila derrière un rocher, réapparut sur la pente. Son pelage se mêlait aux buissons, laissant une traînée poikilos. Ce mot de la Grèce antique désigne la peau tachetée du fauve. Le même terme décrit le chatoiement de la pensée. La panthère, comme la pensée païenne, circule dans le dédale. Difficilement saisissable, elle palpite, accordée au monde, pavoisée. Sa beauté vibre dans le froid, tendue parmi les choses mortes, paisibles et dangereuses, mâle avec un nom femelle, ambigu, comme la plus haute poésie. imprévisible et sans confort, bigarré, moiré, c'est la panthère Poikilos. Le chatoiement disparu pour de bon. La panthère des neiges s'était évaporée. Débuta la journée d'affût. Dans le sud du Liban, au cœur du district de Sidon, se dresse une chapelle dédiée à la Sainte Vierge, Notre-Dame de l'Attente. Je baptisai notre grotte de ce nom. Léo en était le chanoine. Au télescope, il fouilla la montagne jusqu'au soir. Munier et Marie devaient en faire autant dans la niche du bas, à moins qu'ils n'occupassent autrement les heures. Parfois, Léo se repliait à quatre pattes pour boire une gorgée de thé au fond de la cavité, puis reprenait sa vigie. Munier nous avait parlé à la radio. Il pensait que le fauve avait traversé le canyon et rejoint les terrasses de roches sur le versant opposé. Elle va se reposer en tenant un œil sur la proie, fouiller les blocs en face, à même hauteur. Ces heures furent notre dette payée au monde. Je demeurais dans cette nacelle, entre le vallon et le ciel, à scruter la montagne. Je me tenais jambes croisées et regardais le paysage derrière la vapeur de mes expirations. Moi qui avais demandé au voyage de me pourvoir tant de surprises, follement épris de la variété et du caprice, je me contentais d'un versant gelé dans une enchâssure. M'étais-je converti au Wu Wei ? Art chinois du non-agir. Rien ne vaut 30 degrés sous le zéro pour vous plier à ce genre de philosophie. Je n'espérais rien, n'agissais pas. Tout mouvement laissait pénétrer dans le dos un coulis de froid qui ne prédispose pas au grand projet. Oh, certes, si une panthère avait surgi devant mes yeux, j'en aurais été comblée, mais rien ne remuait et, dans cette hibernation éveillée, je n'en concevais aucun dépit. L'affût était un exercice de l'Asie. Il y avait le Tao dans cette attente d'une des formes de l'unique. Il y avait aussi un peu de l'enseignement de la Bhagavad Gita hindoue, négation du désir. L'apparition de l'animal n'aurait rien changé à l'humeur. Demeure égale dans le succès comme dans l'insuccès, nous rassurait Krishna au chant numéro 2. Et comme le temps largement ouvert accueillait la malaxation des pensées, je me disais que cette science de l'affût à laquelle m'avait initié Munier était l'antidote à l'épilepsie de mon époque. En 2019, l'humanité pré-cyborg ne consentait plus au réel, ne s'en satisfaisait pas, ne s'y accordait ni ne savait s'y assortir. Ici, à Notre-Dame de l'Attente, je demandais au monde de continuer à pourvoir ce qui était déjà en place. À demain pour un 18e extrait. Oh.